tour sur son champ.
Elle avait rien à y foutre déjà pour commencer. Et ça va bien qu'elle est morte toute seule. Sinon, j'ai foutu un coup de fourche, moi, au bazar.
Et puis quand elle est revenue, elle avait chopé toutes les maladies qui existent, d'un seul coup.
Ouais, parce que quand elle est arrivée, elle était en pleine forme. Hein. Elle avait déjà toute la moitié arrière qui était morte depuis 15 jours.
Il me rembourse la bête ou ça serait un bain de sang. Je génocide.
Je lui rembourse mes genoux. Et si la fille de la Vérole à mes bêtes, je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, je vais flamber la moitié de la Bretagne.
Libre Radio, la radio qui allume le feu. Voilà, donc nous sommes en direct et en public depuis le studio 99. Tu sais, tu peux nous rejoindre ici. Alors, soit par contumace, tu nous fais un commentaire et tu interroges nos invités à l'adresse suivante, info@libradio.org, ou alors en te loguant sur la page Facebook de l'émission, c'est La Comète à la Banane. Ou alors, tu viens ici, tu te rends au studio et puis nous t'accueillons volontiers. C'est petit, mais c'est cosy. Hein, Sylvain, c'est franchement pas mal. T'es d'accord? On est bien installé.
Grand luxe. Venez, il manque juste un frigo, je pense.
Ah tiens, on va y penser à cela. On va trouver un petit budget pour ça. Alors, bienvenue. Sylvain, nous sommes ravis de te recevoir. Comment faut-il te présenter? Comment souhaites-tu te présenter?
Écoute, un citoyen de la ville de Genève, engagé en politique, c'est vrai, j'ai une casquette militante, élu au conseil municipal de la ville, travailleur social de formation et de fonction, et puis amoureux des livres.
Amoureux des livres, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu entends par amoureux des livres? Toi-même, t'adonnes-tu à l'écriture ou...
Alors oui, j'écris de la poésie principalement, qui a été publié chez des micros éditeurs genevois, Miel de l'Ours, Édition des Sables, Édition Samizdat. Peut-être c'est pas des noms qui parlent à tout le monde, mais des éditeurs passionnés qui sortent des ouvrages pour certains depuis 25, 30 ans. Micro-édition, on parle de 200, 300 exemplaires par tirage, mais 4, 5 livres publiés par an. Et des gens comme ça qui font vivre la langue, la poésie au niveau local. Donc c'est une aventure passionnante. Donc j'ai été publié chez eux. Ça devient des amis. Et puis après, on participe à des événements, des petits festivals. Il y a Fureur de lire, notamment qui a été organisé par la ville de Genève, qui a été repris maintenant par la maison de Rousseau et de la littérature. Il y a Poésie en ville tous les 2 ans. Parfois le salon du livre, et puis des événements plus locaux. On fait des lectures au Bain des Paquis, dans les librairies, que ce soit au Parnasse, au Boulevard ou au Rameau d'Or. Et puis un dimanche par mois, un atelier d'écriture.
Au Galpon.
Au Galpon, c'était en décembre, ce qui était aussi un événement un peu exceptionnel, parce que le Galpon faisait porte ouverte dans un concept qu'ils ont appelé Deadline, pour mettre à dispo le galpon d'associations, de gens qui voulaient venir. C'était décembre et novembre. Nous, vraiment, chaque mois, on le fait ou chez Isabelle Sbrissa, qui est elle-même éditrice et poète, aux Voix Couvertes à Saint-Jean, ou chez moi. Cette idée de réunir les gens autour de la poésie, ils viennent lire leurs textes, lire leurs textes en travail, et puis on en discute.
D'accord. Lorsque l'on écrit, est-ce qu'on est également possesseur de beaucoup de livres? Est-ce qu'on a une grosse bibliothèque à la maison?
Alors je pense que pour écrire, il faut être un bon lecteur parce que tu te nourris aussi de style, d'influence. Tu te construis comme écrivain aussi par opposition, par apprentissage avec d'autres auteurs. Donc oui, la plupart des gens qui écrivent sont des gros lecteurs. Après, on peut ne pas l'être, hein, mais en général, la plupart des écrivains aussi reconnus ont toujours dit qu'ils ont commencé à boulotter, quoi, à prendre des livres. Puis après, peut-être qu'ils font un moment les rejeter aussi, pour se trouver son style, sa patte. Et puis à un moment, il y a des périodes où on lit plus du tout, mais d'autres où quand même on se fait son vocabulaire, son alphabet en lisant.
Alors justement, tu l'as déjà dit un petit peu en ébauche, mais si tu le voulais bien, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes à ce moment clé qui est le passage de l'oral à l'écrit. Écrire, ça veut dire quand même se livrer, se mettre à nu, ça veut dire éventuellement essuyer des critiques, des fois sévères. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit « je suis prêt, j'y vais, je me lance à l'eau » ou est-ce que justement, il faut ne pas être prêt pour le faire?
Je pense qu'il y a un besoin à un moment d'aller tester ou regarder, éprouver son écriture face aux autres. C'est-à-dire, on peut écrire dans son coin, comme on dit, on peut y trouver un grand plaisir. Il y a plein de gens qui écrivent des textes incroyables et puis ils les gardent pour eux, peut-être par timidité, peut-être pas justement, ils ont peur du regard des autres. Puis à un moment quand même, en tout cas c'était le cas pour moi, j'avais envie de sortir ça, de le finaliser aussi pour pouvoir passer à autre chose. Tant que tu es dans tes écrits, entre guillemets, à la maison, c'est infini, on les retravaille, on continue à les collectionner, mais à un moment on a besoin de s'en détacher. Et je pense que la publication, la lecture ou le fait de le projeter à l'extérieur permet paradoxalement de franchir un palier, puis d'aller après à d'autres niveaux d'écriture. Et puis, il y a toujours aussi le besoin du retour, quoi, que les gens te disent, bah non, c'est nul, c'est génial, pourquoi t'as dit ça ? Explique-moi, dans le meilleur des cas, où je trouve ça intéressant, mais tiens, ça me rappelle quelque chose. Et comme ça, on nourrit une intelligence, on progresse aussi dans son écriture de qu'est-ce qu'on souhaite vraiment exprimer. On rencontre des gens, parce qu'on est des êtres sociaux, on est toujours liés aux autres, on n'écrit pas seul dans son coin. Ça permet, il n'y a rien de plus beau que de rencontrer un éditeur qui dit « mais voilà, j'ai envie que tu sois plus lu parce que ça me touche, parce que je pense que c'est important. Tu racontes quelque chose que d'autres ont dit, mais pas exactement de la même chose. Ou tu racontes quelque chose sur la société aujourd'hui qui doit être entendue. » Puis là, on est plus fort. On est plus fort quand on est ensemble que quand on est seul dans sa chambre à aligner ses idées. Donc ça nourrit, ça motive. Voilà, si on est seul à écrire, au bout d'un moment, à quoi bon ? Si on écrit, puis on est lu, puis ça produit un impact, bah évidemment, on est motivé, ça donne de l'énergie. Et puis, voilà, tout d'un coup, tu es invité dans une ville pour présenter ton texte. Tout d'un coup, il est repris, certains ont des prix. Bah, c'est quand même de l'énergie pour aller plus loin, pour continuer à porter une voix et pas se décourager à aller renoncer.
Est-ce que c'est facile de parler de son écrit, justement ? Parce que, voilà, il y a le moment où on est... en soi-même, introspectivement, en train d'écrire, on livre cette chose-là, mais ensuite, effectivement, comme tu l'as dit, il y a ce deuxième temps de rencontre, d'en parler. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'aisé, ou est-ce que c'est un travail qui est extrêmement différent et qui n'est pas automatiquement si facile qu'on ne le pense ?
Oui, je pense que ce n'est pas si facile, c'est très individuel. Des gens, par exemple, parlent très bien de leur écrit avec grande facilité. D'autres, c'est plus compliqué. Certains les lecturent, certains lisent leurs textes avec beaucoup d'aisance et de plaisir. Pour d'autres, non, l'objet, c'est le livre. Et la lecture, c'est pas écrire. Donc, ça leur appartient pas. Ils préféreront, par exemple, faire lire leurs textes par des comédiens, dont c'est le métier. Ça, c'est très particulier et individuel. Il y a des gens comme Paul Celan, où voilà, entendre Celan lire était une expérience incroyable. À le lire, certains disent bah, « je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire ». Il y a des voix, il y a des écrivains qui sont révélés dans la lecture, et à contrario, d'autres, pas du tout. Ce qu'on fait le dimanche quand on se réunit au laboratoire d'écriture, c'est justement mettre ce passage à l'oralité, parce que de plus en plus quand même, on ne peut pas se contenter d'écrire un livre puis de ne pas le porter. On sait que c'est aussi une période où les gens ils veulent voir les auteurs, ils veulent les entendre. Donc c'est aussi un exercice de projeter cette voix, d'assumer son écrit aussi. Il faut toujours y revenir, parce que tu parlais de timidité. À un moment, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Et ben, d'aller un peu désinhiber ce rapport à l'autre en acceptant que l'écriture, c'est une autre forme de parole, je vais le dire comme ça. Et puis qu'elle est sujette à contradiction, à critique, mais il faut l'assumer. Grandir dans sa créativité, c'est aussi ça. Mmh. C'est dire, ben voilà, vous aimez pas, mais moi, c'est cette parole-là que je porte, parce qu'elle me semble importante.
D'accord. Dis-moi, quand on est auteur, comme toi, un jeune auteur ici à Genève, en Suisse romande, est-ce qu'il est aisé de trouver un petit éditeur ou un éditeur ? Est-ce qu'il est aisé d'entrer dans les circuits de distribution, ainsi que de retrouver son livre dans les librairies ? Ou est-ce que ça, c'est également un chemin compliqué ?
Ça reste un chemin compliqué. Je pense qu'il faut aussi un peu de chance. Il faut aller chercher les éditeurs. Après, globalement, il y a des grands progrès qui ont été faits sur la politique de soutien aux livres. Donc, au niveau national, c'est Pro Helvetia qui s'en occupe, mais il faut déjà avoir édité un livre pour pouvoir accéder aux bourses. Mais au niveau de la ville de Genève et maintenant du canton, c'est le canton qui reprend la politique du livre, il y a des bourses, il y a du soutien, il y a des mécanismes comme ça qui se mettent en œuvre pour valoriser les auteurs. Après, le marché de l'édition en Suisse romande est un tout petit marché. Hein, on est par rapport au marché français vraiment restreint. Donc, il y a plutôt des micro-éditeurs qui font du très bon boulot. J'en ai cité quelques-uns au niveau de la poésie. On peut citer les éditions Zoé, les éditions d'en bas, la Baconnière. Il y a quand même un champ encore très, très riche.
Cabedita, ils sont aussi dans le coin, non ?
Cabedita aussi, si. Ils sont j'allais dire en Pays de Vaud, mais peut-être à La Tcho.
Oh,
Torticolifrères.
Oui, Torticolifrères qu'on avait reçu. Oui,
qui sont, voilà, il y a des gens incroyables, mais il faut un peu aller gratter, il faut les identifier. Et comme je dis, c'est chaque éditeur fabrique des livres qui lui sont propres, avec une ligne éditoriale. Petit conseil à tous ceux qui écrivent et qui veulent être édités, d'aller par exemple au salon des petits éditeurs qui a lieu au Petit Saconnet, ou au salon du livre quand même, parce qu'il y a le cercle des éditeurs et des libraires où vous rencontrez tout le monde. puis d'aller parler, d'aller causer, puis de voir un peu qui résonne avec l'écriture que vous avez. Ça sert à rien d'envoyer des manuscrits à tire-larigot à des gens voilà,
qui vont pas les lire. Poésie, ou... ouais.
Ça sert à rien de l'envoyer à quelqu'un qui fait de l'histoire militaire, par exemple.
Hein. Certes.
Ça semble évident, mais ça ne l'est pas toujours.
Non, mais tu as raison. Alors, c'était justement la question qui allait venir. C'était quelques conseils aux jeunes auteurs et auteurs. Ce serait ça. Ce serait, par exemple, d'aller créer son propre réseau lors du salon du livre, du salon des petits éditeurs, par exemple.
Ouais, je pense que c'est travailler, avoir un recueil, quelque chose d'organisé qui, à un moment, fait sens et cohérent. L'envoyer, je pense que c'est toujours bien à deux ou trois personnes de référence dont on estime, dont on respecte le travail, leur demander un retour, prendre le retour pour ce qu'il est, un retour, et puis si ça fait sens, l'intégrer, si ça ne fait pas sens, ne pas l'intégrer, puis après aller chercher un éditeur, quelqu'un qui résonne, qui croit en vous, qui aura un peu la même ligne éditoriale, et puis là, défendre ses chances, et puis convaincre. Et candidater pour les bourses, pour les prix, faire ce travail aussi, qui peut toujours aider, et puis lancer... une carrière d'écrivain, d'avoir un prix ou une bourse, ça peut aider. C'est une forme de reconnaissance avant tout. Pas être trop regardant, je pense, sur le premier ouvrage. C'est avant tout une carte de visite. Et puis, continuer à travailler.
D'accord. Bah, je te remercie pour ces conseils, en tout cas. J'ai encore une question concernant la posture d'auteur. Lorsque l'on est auteur, est-ce que l'on devient plutôt ami avec son éditeur ou plutôt avec ces quelques libraires que l'on rencontre? Je te dis ça parce que c'est intéressant aussi d'avoir, j'imagine que lorsqu'on a une première édition, puis on en a des successifs, peut-être que quelques modifications apparaissent sur les bons conseils, sur les retours soit du libraire, soit de l'éditeur. Je ne sais pas comment ça se passe.
Ça dépend l'éditeur et le libraire, je dirais.
Okay. Mais toi-même, du coup, parmi dans ton carnet d'adresses, tu as quelques libraires et éditeurs qui te conseillent, tu vois ce que je veux dire, qui reviennent sur le travail que tu as fait, avec lesquels tu as des discussions un petit peu sur, peut-être pas le contenu, mais la forme du texte.
Beaucoup plus avec les éditeurs que les libraires. Mais les libraires sont aussi dans un rapport un peu fonctionnel de vente, de livres, d'objets livres. Plus que dans le contenu. Après, voilà, on a des liens et puis on se parle, puis on devient aussi amis. Auquel cas, on commence à parler du livre en tant que tel. Mais je pense qu'il y a aussi une pudeur, il y a une distance. Peut-être les libraires aussi, pour garder leur rôle, gardent aussi une certaine neutralité face au livre. Ouais. Après, ils ont leur coup de cœur. Mais je crois qu'il n'y a pas eu plus de critiques que ça, alors que l'éditeur, vraiment, il met les mains dans le manuscrit. Il dit, mais ça, je ne comprends pas. Puis on a... ton titre, je trouve que ça va pas, ou il faut un titre plus commercial, auquel cas l'auteur doit défendre ses choix. Là, on va vraiment plus dans le débat de fond. Après, ça dépend vachement des personnes. Les bibliothécaires aussi, il y a des très belles rencontres. Bah, Patrice Duret, qui est l'éditeur du Miel de l'Ours, est aussi bibliothécaire à l'ECG Henri Dunant. Donc, quand on aime le livre, on finit par aller dans les librairies, s'intéresser aux éditeurs, devenir bibliothécaire. Enfin, tout ça, c'est un petit monde qui se connaît, qui se serre les coudes et puis qui, en fait, fait un peu le même travail de promotion de langue, d'écriture singulière.
On s'était déjà vu, on avait effectivement déjà parlé de la librairie du Parnasse. On reviendra là-dessus lors d'autres émissions parce qu'effectivement, là, ce sont des sujets qui sont complexes, délicats et extrêmement passionnels. Et donc là, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant d'avoir ton point de vue concernant les petites librairies indépendantes ici à Genève. Selon toi, est-ce qu'on est dans une phase de régression, une phase de stagnation ou une phase plutôt d'expansion ?
On est dans une phase de régression et de maintenir ces petites librairies qui sont menacées, c'est clair. Il y en a plusieurs qui ont fermé. Il y a Descombes, notamment en vieille ville, qui a fermé. Il y en a eu d'autres. Et puis, c'est une période compliquée. En partie, on le sait, quand même, l'arrivée d'Amazon, pour pas citer, j'aurais pas dû citer ce nom, mais de grandes, comment on les appelle, de grands... de grossistes en livres à succès, commandes sur internet rapides, etc. Quand même le rapport le franc-suisse et la cherté du franc, mais surtout le refus du prix unique au niveau national, même s'il a été accepté à Genève, il faut le rappeler, il y a quelques années. Ouais. Donc le refus du prix unique et puis les marges que se prennent, si vous voulez, les diffuseurs font que le prix est objectivement plus cher en Suisse que si tu vas l'acheter lors de ton voyage à Paris ou à Lyon. Deuxième facteur, les loyers qui sont extrêmement chers en ville de Genève. Donc si une librairie, à un moment, son bail se termine, ou etc., c'est très difficile de se réimplanter. Et puis, enfin, je dirais quand même, les budgets de la ville et du canton qui sont attaqués en général par la droite et qui diminuent ont fait qu'il y a des diminutions d'achats dans les bibliothèques, tant de la ville que du canton. Et ces achats se font grandement auprès des librairies locales. Voilà, si on aligne tous ces facteurs, c'est des facteurs fragilisants, évidemment. Donc, ça veut dire quand même, je pense, moins de livres vendus, moins de marge. Et c'est du sacerdoce. Il y a la librairie Farana, il faut lui retirer le chapeau, à la rue Voltaire notamment, qui fait un boulot qui est presque monacal. Il n'aimerait pas ça, parce que c'est des athées, les anards. Mais il est, voilà, il tient cette librairie, mais voilà, c'est des tout petits salaires qu'on dégage d'une librairie aujourd'hui. Pareil au Parnasse, pareil au Boulevard, qui est vraiment une équipe incroyable. Mais, et Rameau d'Or, on sait aussi le travail qu'a fait Yann Courtiot, mais c'est vraiment... Voilà, un sacerdoce, des heures et des heures pour au final tirer 2500, 3000 francs par mois. Donc forcément, c'est peu attrayant, je dirais. Si vous voulez gagner de l'argent, vous n'allez pas lancer une librairie. Mmh. Et puis, c'est un travail de foi, de croire dans ce métier du livre. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est beau.
Qu'est-ce que c'est beau
de transmettre la parole. C'est un peu ce que vous faites aussi à la radio, de porter comme ça ces métiers qui sont essentiels pour la démocratie, pour la conscience, pour qui on est comme citoyen et comme être vivant.
Absolument, mais on reviendra là-dessus de toute manière. Alors, revenons au texte. Tu l'as dit toi-même, tu es auteur plutôt de poésie. Alors, lorsque l'on voit ces textes se faire être appropriés par autrui, comment est-ce qu'on aime les réentendre? Est-ce que justement c'est plus dans un théâtre qu'on a envie de les entendre, dans des lieux insolites, par des actrices et des acteurs? Comment est-ce qu'on a envie, comment est-ce qu'on est flatté de réentendre son texte par la suite?
Moi, je suis très heureux quand quelqu'un le lit et trouve ça, retire quelque chose du texte, évite de me dire « Ah, mais je comprends rien », ça c'est toujours, j'en rigole, mais voilà, si quelqu'un reçoit le livre, le lit et il perçoit une énergie, une émotion, ça me suffit. Voilà, y a pas, la poésie, elle est très peu mise en scène, elle est parfois lue, elle est entendue éventuellement à la radio, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'attente sur comment va vivre le texte, c'est pas un texte de théâtre. Donc non, l'idée c'est de travailler, créer, puis après le livre est là, il circule ou il circule pas, mais ça c'est encore autre chose.
Ok. Qu'est-ce qu'a la poésie pour toi que n'ont pas d'autres formes d'écriture ?
C'est pour moi une grande liberté. Tu es libre par rapport à une syntaxe, par rapport quand même à une construction de texte. On peut pratiquement tout faire. Dans la poésie, on connaît les glossolalies d'Artaud, justement des textes de déconstruction, de la poésie sonore. On s'amuse avec le langage comme une matière première où la liberté est infinie dans les sonorités, dans les rimes ou pas. Et puis ça permet aussi de réinventer le langage en tant que tel. Ça permet de faire des néologismes, vraiment de densifier le langage et du coup le repenser. Donc pour moi c'est essentiel pour une langue d'avoir ces marges créatives.
Très bien. Dis-moi, est-ce que dans un univers poétique, est-ce qu'on a des figures tutélaires comme ça dont on s'inspire? Est-ce que toi-même, tu revendiques un héritage ou une coloration? Je sais bien que l'idée, c'est vraiment de recouvrer son style et puis d'avoir son univers à soi. Mais des fois, enfin moi qui suis pas du tout un écrivain, mais par contre un amateur de poésie, quand j'entends poésie, tout de suite, j'ai l'écho de Pessoa. Par exemple, est-ce que pour toi, y a-t-il également pour toi des figures un petit peu tutélaires comme ça que tu revendiques ou pas du tout?
Oui, oui, Pessoa en est l'un d'eux, Pavese, Cesare Pavese.
Oui. Oh, Cesare Pavese, c'est
Pasolini.
Magnifique.
Donc là, on est dans l'italianité et méditerranéen.
Mais c'est dur là quand même que tu cites. Hein.
C'est des durs, enfin, en tout cas, je les ai toujours lus en traduction. Donc jamais dans la langue originelle, ce qui est dommage, mais bon, je ne parle pas italien ni portugais. Georges Aldas, en français, ça a toujours été quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, autant par ses cahiers que par la poésie. Plus contemporain, Antoine Aimaz, qui est un français absolument foudroyant dans son écriture, Antonin Artaud. Il y a Henri Michaud, il y a une succession.
Guévic,
je connais un peu moins, mais aussi quelqu'un d'important. Éluard, quand on veut se faire du bien, un petit poème d'Éluard, ça fait toujours du bien. Voilà, il y a un poète pour chaque humeur, je dirais. Donc voilà un peu les noms qu'ont balisé la poésie russe. Akhmatova, Tsvetaeva, pour moi, je trouve que c'est une douleur, une souffrance, mais en même temps une transcendance absolument incroyable. Donc je pratique le slalom dans la poésie et tout est bon dans le cochon, donc je prends. Non, il y a vraiment une foultitude de grands auteurs qui m'accompagnent. Et puis aujourd'hui, le travail de Marina Skalova, ici en Suisse romande, de Patrice Duret, je l'ai dit, de Rolf Doppenberg. Plein de gens qui ont des voix importantes et qu'il faut, à mon avis, lire et relire parce qu'on on en a besoin pour aussi se réinventer dans sa langue.
Absolument. Je te propose qu'on fasse une mini-pause musicale et on reviendra pour parler de cette initiative généreuse et singulière dont tu es l'auteur. Mes livres sont à vous. On parlera ça en deuxième partie, un petit quart d'heure ensemble, si ça te va.
Excellent, avec plaisir.
Ouais. Super. Alors, petite pause musicale. Je le rappelle, si tu souhaites intervenir au cours de cette émission, interroger nos invités et nos invités, eh bien, tu le fais par la page Facebook de l'émission, c'est La Comète à la Banane, ou alors on nous envoie un mail à l'adresse suivante, info@libradio.org. C'est parti.
www.libradio.org.
Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin.
Mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.
Voilà, de retour en direct depuis notre petit studio 99 à l'Espace Quartier des Charmilles, où on est parfaitement bien installé et où nous sommes en présence de Sylvain Thévaux pour cette initiative qui a eu cours la semaine passée. Samedi, dimanche, non, c'était
le samedi. Samedi après-midi. Voilà,
à l'occasion de la fête des rois, tu as mis à disposition tu as ouvert complètement ta bibliothèque à la maison pour que les gens puissent venir picorer et repartir avec le livre de leur choix.
Tout simplement.
Bah, c'est carrément. Enfin, nous, ça nous a ému, ça nous a touché, je veux dire. Ouais. D'où t'es venue cette idée-là de se dire, bah, déjà, j'ai des bouquins. Enfin, souvent, on a quand même besoin de ces livres. Qu'est-ce qui t'a pris de te dire, tiens, je vais les livrer au peuple.
Et, je sais pas si j'ai pensé comme ça, mais je vais essayer de dire comment est venu le mouvement, William. Non, c'était une passion des livres, donc j'en achète, on m'en donne. J'en récupère. Là, il y a des gens qui, tout d'un coup, j'ai le souvenir d'un pasteur qui est entré en EMS et qui donnait sa bibliothèque. Donc, j'ai accumulé, acheté, recueilli des bouquins jusqu'à avoir une grande quantité de livres. Et puis, se posait l'enjeu pour moi de soit je les stocke dans des cartons et je les mets dans une cave ou au grenier d'un ami, soit qu'est-ce que j'en fais ? Et puis, très spontanément, je me suis dit, mais pourquoi pas ouvrir ma porte, comme tu l'as très bien dit, pour que les gens viennent prendre ce qui les intéresse. Alors, je me suis posé la question de l'attachement, en fait. Quels sont les livres que tu n'as pas envie que des gens viennent prendre ? Et il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, quand même, que j'ai retirés, des livres d'art ou des livres rares, ou des livres qu'on m'a donnés, surtout, avec des dédicaces, des cadeaux, où ça, je les ai mis de côté, mais c'était quelques pièces. Le reste, pour moi, ça reste des livres. Donc, ça circule, ça passe de main en main, ça peut être acheté, ça peut être retrouvé. Donc, voilà, c'était très naturel et c'était la curiosité aussi de voir qui allait venir et qui allait... comment ça allait se passer ce moment, en fait.
Et alors, qui est venu et comment ça s'est passé ce moment ?
Alors, j'ai mis d'abord une petite annonce sur un des réseaux sociaux bien connus, privé. Puis après, je l'ai mis en public en me disant, mais plus il y a de monde, plus ce sera rigolo. Et puis, ça a fait un micro-buzz sur ce réseau social. Il y a plein de gens qui en parlaient, déjà qui ont été touchés, qui ont dit « génial, c'est sympa, mais c'est fou ». Alors, je trouvais cette réaction intéressante parce que pour moi, c'était très naturel. Donc, ça touchait les gens, comme tu l'as très bien dit. Ça interpellait les gens d'aller chez quelqu'un se servir, en fait. On va dans l'espace de quelqu'un, dans son appartement, et puis on va pouvoir prendre ce qu'on veut. Alors ça, je trouve ça fait... Les gens, ils aiment ça. Ou en tout cas, ça provoque quelque chose. Il y a de la curiosité, il y a de l'envie. Il y a un peu de gêne, des fois, c'est pas très protestant, c'est pas très calviniste de pouvoir aller chez les gens, prendre ce qu'on veut. Mais ça, c'était rigolo déjà, c'est la première réaction. Puis après, le jour dit, c'était des gens qui sont venus de tout âge, de toute origine, des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas du tout, qui me connaissaient pas, qui ont vu là le petit mot, et puis qui se sont décidés à venir, des gens qui sont venus avec des sacs pour prendre... plusieurs livres, d'autres qui sont venus en disant « mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ou pas plus que ça les livres, j'en ai déjà trop, mais je viens vivre ce moment, voir qui vient, c'est quoi cette petite dinguerie de début d'année ». Les gens, certains ont amené à manger, à boire, d'autres pas, donc c'était absolument génial. Pour répondre à ta question brièvement, c'était un moment incroyable où les gens se retrouvaient là, avoir le sentiment de vivre quelque chose d'un peu singulier, puis de découvrir des gens qui avaient eu la même idée qu'eux, donc forcément ça crée des liens. Et puis forcément d'être face au livre crée des liens aussi parce que est-ce que tu as lu celui-là ? Tiens, je cherche le Nabokov, Lolita, est-ce que tu l'as vu ? Donc du coup, on se retrouvait un peu comme dans une espèce de bibliothèque géante mais où on peut se faire plaisir en se mettant ce qu'on veut dans les poches. Donc c'était joyeux.
Justement, je me demandais si toi-même avais-tu conseillé, si les gens étaient venus avec des idées en se disant « moi je connais un petit peu Sylvain Thévaux parce que soit je l'ai rencontré lors d'un atelier, soit je l'ai entendu, soit je l'ai vu à un stand ou des choses comme ça et j'imagine quel livre il y aurait. » Et donc je viens avec une idée en disant « Sylvain, est-ce que tu aurais un livre autour justement des années de plomb en Italie ?» Je prends un exemple parmi d'autres dont je sais que tu t'intéresses. Ou alors au contraire, les gens sont plutôt venus en disant « j'ai envie de totalement découvrir. Monsieur Thévaux, est-ce que vous me conseillerez quelque chose, disons, dans le domaine de la philosophie ? Est-ce que toutes ces postures-là sont apparues ou l'une plus que l'autre ?
Alors, je crois pas que... Il y a eu tout ça. D'accord. Je me suis transformé un peu en libraire de mes livres.
C'est ça.
Où il y avait un grand salon avec les livres, puis il y en avait dans la cuisine, deux endroits. Dans la cuisine, c'est plutôt les romans. Puis oui, il y a plusieurs personnes qui disaient, je cherche, j'ai dit Lolita de Nabokov notamment. Mmh. Mais Christine Angot, est-ce que c'est bien ? Vous lisez du Yann Moix, alors je devais justifier des choix parfois discutables en termes de littérature, ou pas, parce que moi j'aime beaucoup Christine Angot, j'aime moins ses interventions putrides à la télé, mais alors comme auteur, je trouve qu'il y a une sacrée patte. Yann Moix, pareil, il y a des fulgurances. Enfin, le livre Partouze, moi, je trouve ça assez drôle et cinglant. Podium aussi, alors que le film, bof. Oui. Mais ça, c'est des goûts, c'est des choix, puis on en parle. Donc, il y a des micro-arènes comme ça qui se sont ouvertes dans cet appartement. En plus, c'est pas grand, donc on est un peu serré, on se marche un peu dessus. Il y a cet effet un peu... est-ce que c'est l'avidité qui va l'emporter avec des gens qui vont se marcher dessus pour prendre des livres ? Pas du tout, les gens étaient plutôt là, bah tiens, au bout d'un moment ils se parlent, donc tiens, j'ai trouvé ça pour toi. Ça devient un peu le souk, et dans cet espace privé, intime qu'est le domicile, le chez-soi, mais en même temps avec un public. Et ça, c'est assez rigolo. Alors je sais qu'il y a des, il y a chant à part, il y a des expériences comme ça, aussi de théâtre, on fait du théâtre ou du chant dans des appartements de gens. Bah, on était un peu dans cette dimension-là pour ceux qui l'ont déjà vécu, d'avoir un truc public avec des gens qui ne se connaissent pas. Mais en même temps chez quelqu'un, et ben moi je trouve que c'est toujours très très bien et je peux que inviter les gens à le faire, à ouvrir leur appartement, à voir qui vient. C'était très bienveillant, il y avait trois personnes aussi pas francophones, donc je me suis dit mais comment elles ont su d'où elles viennent. Trois personnes, je ne sais pas d'où elles viennent, mais je pense Moyen-Orient, qui étaient là, qui ont pris des livres, qui m'ont envoyé un mail après, certains voulaient mon contact, on crée des liens comme ça autour du bouquin. Mais beaucoup de générosité de part et d'autre. Il y avait au moins 8 galettes des rois ce jour-là. Donc on a en plus mangé comme des petits rois.
Est-ce à dire que c'est un projet que tu vas porter et que tu vas rééditer, ou c'était plutôt vraiment une expérimentation un petit peu unique comme ça ?
J'aimerais bien. Je pense que je vais le faire au moins une fois par an. C'est chouette, peut-être pas plus.
Ça veut dire qu'il faut avoir du volume hein, quand même en livre pour pouvoir faire ça une fois par année.
Oui.
C'est ton cas.
Ouais, j'ai beaucoup de livres. Au final, je me suis dit, ok, c'est parti, mais il en reste encore pas mal. Et puis, puis peu importe, je crois, c'est, même si les gens prennent un livre, c'est le fait de venir, la gratuité aussi, que les gens puissent prendre quelque chose, je pense que c'est toujours attirant. Et après, on m'a beaucoup parlé du troc de livres, en fait. Donc, d'échanger des livres. Là, il y avait un rapport de don. Il y a aussi quelques personnes qui ont amené des livres qu'ils ont laissés. Donc, au final, j'aurais même pu me retrouver avec plus de livres qu'au départ, tu vois. Mais l'idée du troc, c'est bien parce que tu te racontes avec les livres. Donc, je pense qu'à une grande échelle, ça pourrait s'organiser. Allez, amenez tous vos livres. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être chez quelqu'un. Par exemple, ici, au 99, tout le monde amène ses livres et puis on se les échange. Ça crée des liens, c'est des moments sympas où finalement, c'est pas payant. Donc, vient qui veut, et ça je pense que c'est intéressant parce que du coup on se rencontre, on tisse des liens, puis on est dans un endroit sympathique avec la curiosité toujours de voir où habitent les gens, etc. Donc oui, je vais le refaire, je sais pas sous quelle forme, mais c'était que du positif, puis les gens étaient très très heureux. Moi j'ai beaucoup reçu, paradoxalement, quand tu donnes des choses, tu reçois. C'est un peu banal de le dire, mais j'ai eu le sentiment vraiment, plutôt que de m'être fait déposséder de mes livres, d'avoir reçu tellement de témoignages de gens sympas, gentils, c'est génial, d'amener de la bouffe. Et ça, c'était très, très, une très belle manière de commencer l'année.
Ah bah, tu as gardé des traces de ça ? Tu as fait quelques photos ou alors un livre d'or pour que des gens puissent éventuellement commenter ou...
Non, il n'y a pas eu de livre d'or. Il y a quelques photos. Puis il y a quelques... Voilà,
et puis surtout des liens qui se sont tissés.
Ouais. Puis il y a ça, la mémoire de ce moment. L'idée était de pas réfléchir plus que ça. Ouais. Je pense que si on en fait un projet, par exemple, de troc de livres dans un espace comme un espace quartier, oui, il faudrait le documenter, en faire un projet. C'est à creuser,
d'accord. Écoute, ça tombe bien que tu aies utilisé le mot troc, parce que justement, sont parmi nous Isabelle et Simon. Bienvenue à vous. Hein. D'ailleurs, vous n'avez pas encore de micro, mais on va bientôt passer à votre entretien. Et vous occupez justement de troc. Alors, est-ce que les livres sont parmi les choses que vous mettez en troc ou pas ? Vous pouvez prendre un micro là ou celui de Sylvain, c'est égal. C'est Simon qui répond.
Eh ben bonjour.
Bonjour.
Non, alors nous c'est essentiellement des habits. Bah
des habits. C'est uniquement des habits. Est-ce que ça vous a titillé cette histoire de ce qu'on vient de dire avec Sylvain ?
Bien sûr. En parlant, c'est un système qui peut s'appliquer au bouquin parce que c'est facilement transportable, mais même aux meubles, même
à tout.
À beaucoup de choses en fait. Mais avec nous on a ce système de cartes qui permet de faire des dons indirects.
Non, on dit pas trop parce qu'on va faire ça dans la. Là c'était juste pour. C'était juste en fait pour. C'était la transition, puis surtout de vous dire ah bah tiens. Pourquoi pas, il y a quelque chose à faire peut-être en termes de livres concernant le troc. Voilà, donc on va de toute façon parler exactement de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et les prochaines choses que vous allez faire. D'ailleurs, on va faire comme ça, Sylvain, à moins que... Qu'est-ce que je pourrais encore te demander ? Comment est-ce que les gens pourraient être informés ? Pourraient-ils, pourquoi pas, t'aider si pour une prochaine édition, tu souhaitais que des gens mettent un peu la main à la pâte pour une chose ou l'autre ? Préparer le vin chaud, des choses comme ça.
Là, c'était vraiment une initiative spontanée, gentiment désorganisée et individuelle. Si je le refais, si on se met à plusieurs, ben, on, première chose, on viendra en parler avec toi à Libre Radio. Alors, c'est le meilleur moyen de la faire connaître.
Nous, on vient comme... on l'avait, tu sais, on avait ce problème de logistique, sinon on aurait été des vôtres.
Ouais. Puis sinon, on s'organise, réseau social et autres. Là, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'attente. C'était vraiment un one-shot, comme ça, une expérience à renouveler. Puis auquel cas, on vous contactera pour faire un peu de pub et puis l'organiser autrement.
D'accord, Sylvain Thévaux, je te remercie beaucoup. Dernière chose, où est-ce qu'on peut retrouver tes publications ?
Dans toute bonne librairie de la place, simplement donnant le nom, mon nom, ils te sortent les titres ou un titre spécial, puis ça, ils sont listés très facilement, notamment sur Internet. Librairie indépendante et puis les librairies plus importantes de la place, sans autres.
D'accord, je te remercie beaucoup.
Sympa, c'est moi, un plaisir.
À la prochaine, à bientôt de toute façon.
Et vos nouveaux locaux sont super.
Merci beaucoup.
Merci.
Allez, ciao. Ciao Sylvain. On se fait une petite pause musicale, juste une mini pause musicale. On est pile dans les heures, donc pour le moment, on gère bien le timing. C'est toujours ça qui est un petit peu difficile chez nous, c'est de se taire. En même temps, on ferait pas de la radio si on se taisait. On ferait, je sais pas, la sculpture. On y va avec une petite pause musicale et puis on parle truc de truc, c'est ça, hein, un truc de truc avec les deux personnes représentantes fondatrices de Sipi, ouais, c'est ça tous les deux
Oui.
Voilà, donc on va parler avec vous dans 2-3 minutes, c'est parti. Je rappelle juste rapidement, si tu souhaites intervenir, c'est au mail suivant, info@libradio.org ou alors sur la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane. Petite pause.
Oh Mary, sweet Mary, my Mary, oh, oh, oh. Mary, sweet Mary, my Mary, oh, 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 Mary, sweet Mary, my Mary, oh, 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 Mary, sweet Mary, my Mary.